des polars et des notes.
Enfin débarrassé de cette année 2020. Alors, j'hésite un peu à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2021. Vu ce que ça a donné l'an dernier, je reste dubitatif. Bonne et heureuse année 2021. La santé, surtout, enfin, pour les vaccinés. Les autres, ça ne va pas encore être évident de tenir la rampe. Mais on est confiant, à la vitesse où on va, pour 2030 et la prochaine pandémie inconnue, on devrait tous être immunisés contre la Covid. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Évasion, Radio Balise ou Radio Laser pour ce nouveau numéro de Des Polars et des Notes. Des romans tout beaux, tout neufs en cette rentrée littéraire de janvier. Vous retrouverez bien entendu toutes les références des livres évoqués sur le webzine 404. Comme d'habitude, Pierre-Yves trépigne d'impatience derrière la console. Inutile de le faire attendre plus longtemps, on y va. Thème récurrent de ce début janvier, l'adolescence, ses problèmes, ses crises, son mal-être et tout le toutime, c'est parti. On commence par Manger Bambi, un roman noir de Caroline de Mulder, paru aux éditions Gallimard dans la collection La Noire. Bambi, 15 ans, bientôt 16, n'aime pas du tout les hommes, surtout les vieux, ce qui ne l'empêche pas de fréquenter les sites de Sugar Daddy, des plateformes de prostitution déguisées, où des types pleins aux as, altruistes, bien entendu, se proposent de financer les études de jolies jeunes filles. Mais Bambi ne joue pas le jeu. Avec un flingue, c'est le seul objet abandonné par son père, flic, lorsqu'il les a quittés, sa mère et elle. La gamine rançonne ses clients et explose leurs cartes bancaires au room service des grands hôtels dans lesquels elle se fait inviter. Avec deux copines, elle va multiplier les coups jusqu'à celui de trop où des mésaventures de plus en plus désagréables vont lui arriver. Alors, elle n'a pas de papa, une mère alcoolo au dernier degré qu'elle adore et protège, et de trop nombreux beaux-pères, dont un nounours en particulièrement haï. Bambi soigne ses déchirures dans l'extrême violence, la défonce et l'alcool, veut faire payer une dette qui ne peut pas être soldée. C'est dur, c'est cru, c'est superbement écrit en ado VO. Manger Bambi est un roman qui vous percute à lire d'urgence. Et on s'écoute un titre qui est présent dans le livre, Al Capote feat. Caris Nautilus.
Douzi, Prisca, Octopute. Aqua pute, carapute, hydropute, pute.
Je me suis levé à 12h, je recherche de la douceur. Deux ou trois pas de zucker, je fais pleurer ta chatte chou-fleur. L'empereur, le baroudeur, le partouzeur, ces chiennes me connaissent par cœur. Je vais pas leur faire de faveur, 65 cm de largeur. Je pénètre la schneck de ta sœur, je suis le maître nageur. Je lève le majeur et tes verres de trouille. Serre-toi ton glaive avant que le fer ne rouille. Une grosse paire de couilles, plongée sous-marine dans une mer de mouille. Rolex submarineur avec la loupe cyclope sur mes chicots pourris. J'ai mis des clous de girofle, je suis posé tranquille devant le four chirote. De l'alcool fort dans ma fonce, des jeux tourbillonnent. Assis dans le square mais qu'on squatte le hall. Avec tous ces anciens qui parlent de tôle. J'ai le même charisme que Charles de Gaulle. J'ai passé le casting et je n'ai pas le rôle. Je dribble tout le monde et puis je marque le goal. Je réussirai avant qu'une balle me frôle. Les chats te miaulent et moi je nage le crawl. Dans de la cyprine faite à base de
niol.
Tu reconnais plus le champion mec, je te la mets juste dans le pion. Cette pute veut que tous les mois je lui paie une pension.
Double pute.
Je suis dans l'aquarium, la fumée reste en suspension. La machine est en surtension, j'ai besoin d'une subvention.
C'est nous les méchants, les grands requins blancs, les rois de l'océan, le Léviathan. Avale mes enfants, Poséidon, Poly mon trident, Moby Dick, Cyprine et Tsunami. J'suis posé dans le sous-marin, je fuis toutes les zones arides, je navigue sur des doux. C'est nous les méchants, les grands requins blancs, les rois de l'océan, le Léviathan. Avale mes enfants, Poséidon, Poly mon trident, Moby Dick, Cyprine et Tsunami. J'suis posé dans le sous-marin. Je fuis toutes les zones arides, je navigue sur des tours.
Ce fils de pute m'en regardant vers les cieux. Cette pute me suce en me regardant dans les yeux. Je vise le haut commandement à la Kouliakane. C'est moins cher à la loque donc je prends pas l'Huracan. Ta schneck me fait bander comme le triangle d'or quand sa bibi déborde. Les lions mangent à bord. Faux gangster marqué comme un chien tatoué. T'es même pas une salope, t'es juste une chatte à louer. Je te rafale ton bat, ta 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 ta. Je suis sous rapta, je pense qu'au plata plata. Ah putain, chauffant, on n'a pas froid. Les jaloux maigrissent sans anaka droit. Je te vise ton fion, toutes les frappes arrivent à destination. Ici bas c'est devenu rêve une nation. Faites attention, on sort les armes des caches comme inhumation. Je m'en fous si ma meuf me trompe avec une autre meuf. Regarde le spectacle, cette pute twerk avec une seule seuf. Tu te fais jamais péter, c'est que tu taffes avec les keufs. Je reviens sur la scène de crime et je me barre avec toutes les preuves.
C'est nous les méchants, les grands requins blancs, les rois de l'océan, le Léviathan. Avale mes enfants, Poséidon, poli mon trident, Moby Dick, Cyprine et Tsunami. J'suis posé dans le sous-marin, je fuis toutes les zones arides, j'navigue sur des doux vagins. C'est nous les méchants, les grands requins blancs, les rois de l'océan, le Léviathan. Avale mes enfants, Poséidon, poli mon trident, Moby Dick, Cyprine et Tsunami. J'suis posé dans le sous-marin, je fuis toutes les zones arides, j'navigue sur des doux vagins.
On connaissait l'hôtel des cœurs brisés d'Elvis et Alexis Le Rossignol dans son roman Les Voies parallèles, paru aux éditions Plomb, nous emmène au patelin des rêves déçus, des espoirs évanouis sans espoir de retour. Saint-Savin, son équipe de foot, de basket, son bar des sports et son usine qui dégraisse plus vite qu'une abonnée Weight Watcher, laissant les ouvriers sur le carreau, hésitant entre alcoolo et facho, parfois prenant les deux. Et Augustin, un ado qui aimerait bien vivre un peu en attendant la mort, portrait d'une province qui s'ennuie et se délite à l'aube des années 2000. Bonjour Alexis Le Rossignol.
Bonjour.
Alors, il faut bien avouer qu'elle n'est pas très pimpante, votre petite ville de province.
Oui, elle n'est pas très pimpante, mais je pense qu'elle est réaliste, malheureusement.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Les jeunes s'ennuient. Il y a des personnages qu'on traverse, comme Denis, le tenancier du bar des sports, qui aurait voulu être Nicolas Hulot.
Gilles,
qui aurait voulu être Nicolas Hulot, il aurait bien aimé. Et puis d'autres, Johan, le joueur de basket qui est accro au jeu, mais qui a eu des accidents à répétition. Et ce sont des gens qui sont complètement désabusés.
Ben oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que dans ce petit monde-là, les gens se rendent bien compte qu'ils n'ont pas... une vie trépignante, trépidante, et puis c'est des doux rêveurs. Alors, dans le cas du patron de bistrot, là, Gilles, c'est un type qui se rend compte qu'en fait, il n'est pas à sa place. Il aurait aimé avoir une vie un peu insolite, et puis tout ce qu'il a trouvé pour avoir une vie un peu insolite, ben, c'était d'ouvrir un bar, parce qu'il s'est dit, au moins, si j'ai un bar, je ne serai pas à l'usine. Sauf qu'il se rend compte qu'en fait, il est obligé de tenir le crachoir et surtout de donner le change à des types qu'il n'a pas choisi et qui passent leur vie à boire des coups dans son bar. Et donc, en fait, il subit. C'est des gens qui subissent leur existence, tout simplement. Et en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que les rêves ne s'évanouissent pas, mais simplement, en fait, on ne saisit pas les opportunités qu'on a ou on ne sait pas les définir à une période de la vie. Et lui se rend compte à un moment donné, en regardant les Jeux Olympiques, qu'en fait, peut-être qu'il aurait aimé être un marcheur et gagner des médailles pour la France, parce qu'il se rend compte qu'il aurait aimé ça. Il avait une envie de gloire, sans doute. Et puis, il n'a pas eu l'idée, simplement, on ne lui a pas dit. Il en veut un peu à la terre entière de ne pas lui avoir dit qu'en faisant ça, il aurait pu peut-être avoir une vie bien différente de celle qu'il a. Mais on peut aussi se dire qu'il n'a pas beaucoup cherché.
Ouais, mais il y en a d'autres, par exemple, je pense à Johan, qui auraient pu, eux.
En entre-deux, quoi. C'est des gens qui rêvent, mais qui ne prennent pas de risques. C'est des gens qui rêvent de gloire, mais qui n'essaient même pas de l'atteindre, un tant soit peu. C'est des gens qui rêvent de Paris, mais qui n'y vont jamais. Et puis, dans le cas de Johan, mais lui, il avait c'était un succès tout tracé, quoi. Johan, c'était vraiment l'espoir. Tout le village en parlait, tout le village savait qu'il allait devenir la star locale. Et puis, un bête accident. Et puis, c'est le sort qui s'acharne contre une famille. Et ça, c'est le lot de familles. Malheureusement, parfois, on se dit, mais c'est pas possible ce qui leur arrive à ces gens-là. Et en fait, ouais, ça existe. Il y a des gens qui vivent des existences de souffrance, malheureusement, qui vivent des drames. Et puis, voilà, j'ai voulu en parler parce que c'est aussi des choses qui font écho à des choses que j'ai vécues personnellement, pas dans ma famille proche, mais c'est un peu des histoires quand même de jeunesse, quoi, que j'ai mêlées pour que les gens ne se reconnaissent pas. Et puis, parce que j'avais pas envie de faire la description de gens que je connais, mais voilà, j'avais envie, à travers ce récit, d'évoquer des moments de vie comme ça qui sont parfois douloureux, quoi.
Là, c'est la France du début des années 2000. Bon, y a donc ceux-là, ceux qui poursuivaient un rêve, et puis ceux qui se sont décidés malgré tout à faire ce que faisaient leurs parents déjà, c'est rentrer à l'usine, et puis pas de bol, l'usine, elle ferme, quoi. Enfin, elle ne ferme pas exactement, mais elle dégraisse largement les effectifs et ceux qui suivaient leur petite existence pépère se retrouvent hors du système.
Ouais, ce n'est pas des existences aussi pépères que ça. Je pense que c'est vraiment des gens qui sont en souffrance ou qui... Disons qu'en fait, il y a des gens qui ne se posent pas beaucoup de questions et ces gens-là, à la rigueur, acceptent très bien de travailler à l'usine, puisque de toute façon, l'usine, c'est pas quelque chose de... Moi, j'essaye de donner aussi... Moi, j'ai du respect pour les ouvriers, j'ai des respects pour l'usine. On a besoin d'usines, on a besoin de gens qui travaillent. C'est pas des existences conformées à forcément... comment dirais-je, de la souffrance ou de
l'échec. Vous dites très bien, d'ailleurs, dans le bouquin, ils étaient fiers, ils appartenaient à une équipe, ils appartenaient... Oui, il y a vraiment une fierté du monde ouvrier.
Ouais, je pense.
C'est cette fierté-là qu'ils perdent.
Ben, en fait, voilà, parce qu'en fait, quand l'usine marche bien, il y a eu une période où, finalement, l'usine a succédé un petit peu au monde agricole, et puis les gens qui travaillaient dur dans les champs sont allés travailler à l'usine, et ils avaient un salaire, ils avaient des congés payés, ils avaient une vie qui était agréable par rapport à celle qu'ils avaient connue à travailler dans les champs, dans leurs exploitations ou en commis de ferme. Et il y avait une fierté, évidemment. Le drame, c'est quand finalement la mondialisation s'en mêle et que tout devient plus compliqué, quoi. C'est ce que j'ai voulu retranscrire, en fait.
Bon, on arrive au personnage principal du livre, c'est Antonin qui est champion de pas de bol, à mon avis. Qui fait perdre, par exemple, un match de foot à son équipe sans vraiment que ce soit de sa faute. Un des seuls jeunes du coin qui ne peut pas sortir parce que sa mère ne veut absolument pas qu'il mette le nez dehors. Et il passe petit à petit maître dans l'art de s'inventer une vie sociale qu'il n'a pas.
Ouais, mais à sa façon aussi, parce qu'en réalité, lui, il est encore aux prémices de sa vie. Il n'a que 15 ans, hein, 15-16 ans. Mais lui, il subit des privations plutôt que sa vie encore, et on sent que c'est quelqu'un qu'observe beaucoup, qu'analyse énormément, et puis c'est vrai qu'on se pose la question de savoir si lui-même va tomber là-dedans ou pas, quoi. Parce que ça en prend un peu l'allure, mais à la fois, je pense qu'il a une certaine intelligence qui fait qu'il est débrouillard, donc on se dit qu'il va réussir à s'en sortir, et son analyse, en fait, nous permet à nous, lecteurs, d'avoir le décor, le décorum de l'histoire. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien. Ouais. Il est dans une famille un peu à part. Son père a perdu son emploi à l'usine et il en est très heureux parce qu'il est devenu chauffeur de tocar, ce qui lui permet de passer pas mal de temps hors de chez lui et loin de sa femme, donc. Et il est dans une famille un petit peu à part dans le village et il est toujours obligé, en fait, Antonin, vous avez fait en sorte qu'il est toujours en train d'incarner un personnage qui n'est pas vraiment.
Ouais, alors, en fait, c'est pas un mythomane, c'est pas un menteur professionnel, mais en fait, c'est la manière qu'il a bah de trouver sa place, en fait. Hein. Il n'a pas vraiment le choix. Lui, on sent qu'il n'a pas un mauvais fond. C'est pas un arnaqueur, on va dire. C'est simplement un type qui, parce que sans doute il manque de confiance en lui, pour séduire, plaire, trouver sa place, et bah, effectivement, il a recours au mensonge, quoi. Où il laisse entendre, il précise pas toujours, voilà, il joue avec la vérité, quoi. Et puis il se rend compte aussi dans...
Ouais. Et ce qui n'est pas facile, c'est à la maison, parce que son père est relativement absent, et surtout, même quand il est là, il ne dit pas grand-chose, parce que c'est sa mère qui dirige. Et ses parents sont de la DAS, donc sa mère est surtout... sa mère lui en veut d'avoir des parents, mais elle en veut aussi à tous les autres gamins en disant ils ont tout.
Ouais, ben en fait, ouais, elle c'est une enfant de la base, donc elle n'a pas eu ça, elle n'a pas eu d'affection sans doute, et puis elle ne s'est pas en donnée, et puis on ne sait même pas si elle en a. Lui, il se demande même si c'est vraiment sa mère, parce qu'il se dit, mais comment, quand j'ai été élevé par cette personne-là, il ne se souvient pas avoir été choyé, gamin, avoir été bercé, etc. Donc ce qui est terrible pour lui, c'est que tout ce que fait sa mère, finalement, il se dit qu'il ne le fera pas, quoi. Et puis il compare en permanence ses parents avec son entourage et avec les gens qu'il rencontre, et puis il dit j'ai vraiment pas de chance. Et puis d'une certaine manière, ça justifie ses mensonges, ça justifie des actions qu'il commet, parce qu'il se dit d'une certaine manière si je fais pas ça, ben, je m'en sortirai pas, quoi. Je suis un peu condamné, quoi.
Et la lumière arrive avec Lisa, qui est Antonin se lie un petit peu avec Lisa, qui est une autre jeune de son lycée, avec une grande...
Ouais, en fait, exactement. C'est un peu la grande surprise de la vie d'Antonin, c'est que cette fille-là, qui l'accompagne un jour à l'enterrement d'un camarade de classe, où il se retrouve uniquement avec elle, parce que c'est loin et que finalement toute la classe est désistée, et qu'elle, elle l'a un peu, elle l'a fait, comment dirais-je, elle l'a enrôlé un peu dans cette vadrouille, et à laquelle il s'embarque, aidé par la mère de Lisa, qui elle a une voiture et puis les amène, et en fait, ben, il se trouve que cette fille qui lui plaît, on dirait bien qu'elle a aussi des sentiments pour lui, quoi, et s'y attendait pas. Et en fait, il y a une complicité qui naît entre eux, et puis il trouve peu à peu sa place dans la classe, quoi. Et en trouvant sa place, ben, il va s'affirmer petit à petit, mais lui, il va vouloir aller un peu plus vite que la musique, et c'est là où, en fait, le sort, pas qu'il s'acharne, mais revient toujours, c'est que ben, lui... il est pris une nouvelle fois dans un truc dans lequel il s'est mis tout seul, quoi. Et c'est ça qui est terrible.
C'est le danger du petit pas de côté quand on ne sait pas le contrôler. Mais il ne faut surtout pas en raconter plus, parce que c'est là où ça devient franchement palpitant, votre roman. Ben merci beaucoup, Alexis de Rossignol. Donc, je rappelle le roman, c'est Les Voix parallèles, qui est paru chez Plomb. Et moi, je vous le recommande parce qu'on y voit vraiment la France périphérique, comme on dit maintenant. Pour ne pas dire la France des paumés, quoi, parce que vraiment les gens qui sont ont bien du malheur. C'est un peu la France des gilets jaunes.
Oui, je crois aussi. Ouais. À une autre époque, c'est ça.
Ouais. Et on va quitter avec Shakira, qui est présente dans le roman, bien sûr, parce qu'il y a la musique des discothèques des années 2000 avec Whenever, Wherever. Merci beaucoup, Alexis. Exactement.
Merci à vous. Au revoir.
Little
Après le magnifique Alto Braco, paru l'an dernier aux éditions Liana Levy, Vanessa Bamberger revient avec dans un tout autre registre, loin des plateaux de l'Aubrac et de ses troupeaux, avec L'Enfant Parfaite, toujours aux éditions Liana Levy, qui se passe à Paris et raconte le sort tragique de Roxane, lycéenne très douée de première S3 du prestigieux lycée Sully, un destin tout tracé vers de hautes études qu'un tout petit rien va faire basculer. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Alors à part des parents divorcés, ce qui est ma foi assez courant de nos jours, elle a à peu près tout pour elle, Roxane, non ?
Oui, au départ c'est quelqu'un qui est une jeune fille d'apparence plutôt équilibrée, bien dans sa peau, qui travaille très bien, qui a des amis, une vie sociale. Effectivement, ses parents sont divorcés, mais ce qui est vite apparent, c'est sa solitude, parce que sa mère est altiste, donc musicienne, mais pas une grande carrière. Elle est un petit peu à droite, à gauche, en province. Elle n'est jamais à la maison. Et bien sûr, elle ne se fiche pas du tout de sa fille, mais tout de même, elle est quand même très peu là. Quant au père, lui vit dans le sud, à 7, et il est extrêmement absent. Elle le voit un week-end sur deux, et encore, quand elle y va, à 7, il n'est pas toujours là pour elle. C'est une jeune fille qui est aussi une fille unique, et elle habite assez loin de l'école, donc elle vit beaucoup dans le métro en écoutant sa musique, et on se rend compte qu'elle est très seule malgré les amis qu'elle a. Et on sait bien aussi qu'à cet âge-là, les enfants ne disent pas tout à leurs amis, donc elle manque probablement de gens à qui se confier.
Alors moi j'ai un tableau un petit peu plus noir de la situation peut-être, parce que sa mère Mélanie, qu'elle appelle Mélanie d'ailleurs, elle l'appelle pas maman, elle est presque une mère pour elle, Roxane, parce que Mélanie elle n'arrête pas de lui dire que qu'elle est son pilier, que c'est sur elle qu'elle s'appuie.
Oui, c'est souvent le cas en fait quand on a une enfant comme ça qui est presque de l'ordre du précoce en fait. C'est une jeune fille extrêmement mûre pour son âge, qui a des réflexions très élaborées, et du coup sa mère a tendance à la prendre pour une amie et même un soutien, un support plutôt que de sa fille, et du coup les rôles s'inversent, et ça je trouve que c'est très dangereux quand ça se passe.
Bah, surtout Mélanie avec son quatuor à cordes, là, on dirait quand même un groupe de gamins qui répètent dans des garages.
Mais vous trouvez que nous, les adultes, on n'est pas des gamins encore ?
C'est moi,
on est tous des gamins encore.
Moi, mais je croyais que les autres, ils étaient grands. Mais là, c'est quand même très dur parce que Roxane, elle a pas d'image. Et est-ce qu'elle a comme image de famille miroir ? C'est celle, la famille de Cyril, son père qui habite à Sète, qui lui travaille et cadre chez IBM.
Oui, il a une nouvelle compagne, lui, qui est prof de français, qui est plutôt sympathique, qui s'appelle Manon.
Qui joue
plutôt le rôle de mère, mais qui a elle-même une fille, d'ailleurs, une grande fille qui a une vingtaine d'années, qui fait ses études à HEC, et qui est là, donc, de temps en temps. Mais et ça renvoie à Roxane l'image d'une famille parfaite dans laquelle elle n'entre pas, en fait.
Et qu'elle, elle n'a pas. Son père, la phrase, à mon avis, la plus terrible qu'on puisse dire à quelqu'un, il lui répète sans arrêt, « Je t'ai faite parfaite, tu ne vas pas tout gâcher. »
Oui, eh bien, c'est une phrase que quelqu'un a dit, quelqu'un que je ne connais pas, mais le père d'une jeune fille comme ça l'a dit à sa fille, et ça m'a été répété alors que j'étais en cours d'écriture, même presque à la fin, et j'ai trouvé ça absolument glaçant. Mais et je me suis dit, mais en fait, ça existe, les gens qui disent ça à leurs enfants. Mais et j'ai repris cette phrase et qui me semble presque avec la réalité dépasse la fiction pour moi avec cette phrase.
Mais elle est terrible cette phrase, parce que le moindre pas de travers, elle est entièrement responsable de tout ce qui lui arrive.
Ouais, c'est bien ça. Je voulais écrire un roman sur la responsabilité à tous les niveaux, la responsabilité des parents, du corps professoral et puis des médecins, du corps médical aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est une société qui valorise énormément le concept du bouc émissaire. Il faut toujours trouver un responsable.
Oui, mais en fait, Roxane, elle se débrouille pas si mal que ça, avec quand même, là, à mon avis, elle a déjà un bon bagage dans le dos, et ils lui en font porter pas mal. Elle arrive, elle a deux copines, Rose et Lina, avec qui ça se passe plutôt pas trop mal. Elle a un ami, un vrai ami, c'est Ferdinand, avec qui, paradoxalement, elle échange plus qu'avec ses deux copines, et un petit copain, mais qui, lui, n'est pas du tout important. Enfin, moi, j'ai trouvé. Et qu'il soit là, pas là, ça ne changeait pas grand-chose.
Le petit copain ?
Oui.
Oui, le petit copain, en fait, elle se rend compte que ça lui fait du bien au début d'avoir quelqu'un qui lui envoie des messages, qui se dit amoureux d'elle. C'est pour l'image que ça renvoie aussi, je crois que ça lui plaît. Et puis, elle se rend compte qu'en fait, elle n'est pas amoureuse de lui. Elle a même l'impression qu'elle ne va jamais pouvoir être amoureuse. Et c'est presque plus terrible que si elle avait personne dans sa vie.
Voilà.
Et voilà. Jusqu'à c'est la première fois où elle va avoir un rapport avec lui et ça se passe pas comme ce qu'elle pensait, évidemment.
Ouais, il est presque social, son petit ami. Il est une jeune fille à cet âge-là, c'est un petit ami, donc voilà. Elle a trouvé celui-là, mais bon, ce sera un autre, ce serait pas très.
Oui,
très,
c'est pas. Ouais. Oui, effectivement, ouais. Ouais.
Et donc, elle est à Sully en S3, c'est une classe d'élite, les meilleurs en maths, les meilleurs en physique, en chimie, etc. C'est les futures élites de la France. Mmh. Et effectivement, les profs, dont la prof de maths, elle essaie de les endurcir en prévision de ce qui les attend, parce que ça va être de pire en pire, parce qu'il faut intégrer les prépas, les meilleurs prépas, ensuite les hautes écoles. Et Roxane, elle dévisse un peu et elle se tape à. Bon, elle a une bonne moyenne, c'est encore une très bonne élève, etc. Mais c'est plus aussi facile. Et là, ça commence un peu à glisser.
Mmh. Oui, c'est le premier passage au déraillement, en fait. Le système français est très concurrentiel, le système scolaire français est particulièrement très compétitif. Le problème, c'est qu'il est de plus en plus parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Alors, la pression augmente de plus en plus. Et elle arrive donc en première S, elle a toujours été très bonne en maths. Et puis, tout d'un coup, elle ne sait pas pourquoi elle n'y arrive plus en maths. Et ça, c'est quelque chose qui va complètement la perturber et qui va être le départ d'un enchaînement et d'une série de portes qui vont se fermer les unes après les autres. C'est comme si elle se retrouvait finalement dans presque dans un tunnel où il n'y a plus de lumière qui passe.
Bah justement, elle est en train de tout gâcher pour une interro ratée, quoi.
Oui, ça, parce que il faut voir aussi que les gamins, on leur dit, quand ils sont dans des systèmes d'élite comme ça, on leur dit dès le départ, dès la première, ils ont même pas 16 ans et demi, et on leur dit, votre dossier commence dès aujourd'hui, vous avez intérêt à tout réussir, attention, une mauvaise note, et ça peut faire foirer votre moyenne, et si votre moyenne elle est pas bonne, votre dossier sera pas bon, si votre dossier est pas bon, vous serez pas pris en prépa. Donc ça leur met une pression qui est complètement hallucinante. Et d'ailleurs, par rapport aux autres pays comme l'Allemagne, il y avait eu un reportage, un échange entre deux classes de seconde et les Allemands voyant arriver les Français qui venaient de chez plus de Henri IV ou Louis le Grand. Ils hallucinaient complètement sur la manière dont les Français travaillaient parce que c'est pas du tout comme ça que eux sont pas pressurisés de la sorte. La France, c'est vraiment, enfin, en Europe, un pays particulièrement pressurisant.
Oui, mais qui ne sait même pas garder ses élites, mais enfin bon.
En plus. Mais oui, parce qu'en plus, c'est une reproduction sociale totalement, oui. Ce truc-là. C'est même pas, ça laisse pas place aux classes populaires qui, elles, ne sont même pas au courant que les classes préparatoires peuvent leur être ouvertes. Et puis, il faut voir à quelles conditions aussi.
Voilà, et Roxane, elle n'a jamais eu le choix, en fait.
Non, elle n'a pas le choix. Elle aurait voulu être architecte. C'est quelque chose qui l'a fait rêver depuis toujours. Mais son père lui a tout de suite opposé le fait qu'il n'y a pas de débouché pour ce métier-là. Elle ne trouvera pas de métier. Donc, elle fait une prépa et après, elle décidera. Mais il faut en passer par là.
Elle décidera d'aller à Polytechnique comme il a toujours voulu qu'elle y aille.
Voilà, mais il y a étonnamment encore beaucoup de parents qui se projettent comme ça à travers leurs enfants. Alors après, c'est pas toujours négatif. Et puis, c'est presque aussi parfois, c'est pas uniquement de l'orgueil ou vouloir faire une espèce de projection. C'est parfois aussi, les parents ont vraiment peur pour leurs enfants. Ils ont une espèce de peur de déclassement. Et puis, on a l'impression qu'on n'est pas un bon parent si nos enfants ne réussissent pas bien à l'école. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Mais on est en plein dans une société de la peur, une société de la oui. peur du déclassement.
Ouais.
Un ouvrier a peur de devenir SDF. Voilà, on est dans une société de la peur et de la terreur même.
Ouais, et on est aussi dans une société de la perfection individuelle. François Sureau, il le dit très bien, il dit que chacun a peur pour la protection de sa propre vie, que tous, les médias, les réseaux sociaux, vont présenter comme quelque chose de désirable. Donc en fait, on a plus le droit à l'échec, à la moyenne, à l'erreur. C'est quand même très, très angoissant.
Et là, la cerise sur le gâteau, disons-le, la pauvre Roxane attrape de l'acné. Et là, c'est vraiment la catastrophe absolue. Elle est très jolie en plus d'être douée. Et là, pour elle, c'est absolument insupportable. Une jeune fille trop lisse, tout d'un coup, devient grumeleuse, qui a des boutons partout. On pense que c'est toutes ces angoisses, toutes ces contradictions qui ressortent.
Oui, absolument. C'est comme si le monde intérieur se voyait sur son visage. Mais pour l'avoir observé, c'est pas avec des ados, c'est quelque chose de très, très difficile à vivre. Hein. Un acné sévère, une acné d'ailleurs, on dit une acné sévère, ça les rend complètement dépressifs. Hein. Les jeunes qui ont ça comme ça, ils n'osent même plus se regarder dans la glace, regarder les autres dans les yeux. Puis il y a cette dictature de l'image des réseaux sociaux où ils se prennent
surtout
en photo toute la journée.
Ouais.
Ouais. Donc là, ils peuvent plus se prendre en photo, ils peuvent plus se regarder, ils se maquillent. Enfin, quand ce sont des filles, elles se maquillent comme des voitures volées pour essayer de que ça se voit pas. Elles sont extrêmement mal dans leur peau. C'est quelque chose de vraiment très, très, très dur à vivre.
C'est catastrophique. Et donc, elle est complètement déprimée, la pauvre. En plus, il y a ces notes qui sont pas géniales. Mmh. Voilà, en plus. Et donc, elle va essayer de trouver un traitement. Et c'est le problème des traitements, de nombreux traitements dermatos, d'ailleurs. Mmh. C'est qu'ils sont liés souvent aux hormones. Mmh. Et le traitement qui marche le mieux, enfin celui qui fonctionnerait le mieux pour elle, l'oblige à, par exemple, avoir des examens très réguliers pour montrer qu'elle n'est pas enceinte, des prises de sang, etc. Et a des conséquences aussi psychiatriques qui font qu'il faut qu'elle soit absolument suivie et tous des règles dans la vie de Roxane.
Oui, c'est en fait ce médicament, c'est l'ancien Roaccutane. Il n'existe plus tel quel, le Roaccutane. C'est la molécule, c'est l'isotrétinoïne. Le médicament a été génériqué. Mais c'est un médicament dont on ne sait pas, parce que ce n'est pas prouvé, le débat n'est pas tranché, s'il a éventuellement un lien avec des troubles psychiatriques. Mais moi, ce que je voulais, c'était montrer aussi le problème de la liberté de prescription d'un médecin, et puis je trouvais que c'était intéressant aussi de s'interroger sur le bénéfice-risque, parce qu'en plus c'est vraiment d'actualité en ce moment avec les médicaments là et les vaccins, c'est à savoir pour sauver énormément de gens, il va y en avoir certains qui vont avoir des effets secondaires. Et d'ailleurs, c'était mon titre de travail pendant tout le temps de l'écriture du livre, les effets secondaires. C'était ça l'idée que je voulais montrer. Mais donc ce médicament, en fait, va peut-être être un problème pour la personne qui va le recevoir. C'est très rare, c'est pas déterminé. Tous les dermatos que j'ai interrogés étaient terrifiés à l'idée que je parle de ce médicament dans le mauvais sens, parce qu'ils disent qu'ils soignent quand même tellement, tellement, tellement de jeunes qui, sinon, se seraient retrouvés avec des cicatrices. Au-delà des problèmes psychiatriques, ils auraient eu la peau cicatrisée, la peau, pardon, avec des cicatrices toute leur vie. Donc, c'est ce problème. Et en tant que parent aussi, qu'est-ce qu'on peut prendre comme risque par rapport à son enfant quand on sait qu'un médicament à la fois va agir, mais qui peut avoir un effet secondaire? C'est une vraie question.
Mais c'est le médicament, à mon avis, sur votre livre en particulier, pas dans la vie de tous les jours, le médicament n'est qu'une partie du problème.
Je pense, oui.
Il y a une autre partie dans le livre où on suit un cardiologue, François, qui risque d'être radié. C'est un ami de Cyril et qui a prescrit lui aussi le même traitement. Donc, il y a un peu la balance entre les deux, entre la vie de Roxane qui est un petit peu en train de partir et celle de François, le cardiologue, qui est en train de partir aussi. On ne peut pas tout raconter, bien sûr, mais qui est absolument... C'est très, très prenant. Et il y a une autre... La dernière question que je voulais vous poser, c'est à propos de la musique, parce que votre livre, il est baigné dans la musique. C'est la plus grosse playlist que j'ai jamais vue dans un livre. Il y en a absolument partout.
Oui, parce que c'est un livre, quelque part, qui est aussi sur la musique. Je voulais... En fait, la plupart de mes personnages adultes, ce sont des musiciens ratés ou frustrés, mais qui ont gardé un besoin vital de musique. En fait, je voulais parler aussi des illusions perdues, parce que il me semble, en fait, tout le monde a un jour rêvé d'être musicien. C'est quelque chose de l'ordre de la jeunesse, d'avoir envie de même si ça reste du fantasme. Donc, je voulais montrer que c'était... presque comme une dissonance entre les adultes et les jeunes. Et je voulais que chacun d'entre eux ait son univers musical, qui ait une voix du dessus, celle de Roxane, qui est la voix du rap de Yankee, le rap de Blanc, et la voix du dessous, celle de François, qui soit la musique classique et qui est vécue, qui est rejetée en ce moment en tant que culture populaire par les jeunes. Que ça fasse comme une partition, en fait, et que la musique de Roxane, la langue de Roxane, soit étrangère pour François.
Que les deux ne puissent pas communiquer
parce qu'ils n'écoutent pas la même musique, en fait, en juxtaposant, chapitre après chapitre, les voix de Roxane et François. Je voulais juxtaposer des univers musicaux dissonants.
Eh bien, vous avez parfaitement réussi.
Merci.
Je rappelle le titre, c'est L'Enfant Parfaite, qui est paru aux éditions Liana Lévy de Vanessa Bamberger. On va s'écouter Damso, parce qu'il y a du rap partout. Amnésie, voilà. Merci beaucoup, Vanessa.
Merci à vous.
Mort et son avenir proche, les anges de l'enfer l'escortent. Le hashtag vie tient peut-être d'elle, de son coup pendu à la corde. Trop jeune pour comprendre l'impact des mots. J'm'en fous de ce qu'elle veut donc j'ai ce qu'il me faut. 13 ans déjà mon premier rapport. Depuis mon cœur a fermé la porte. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Après la barquette j'voulais qu'elle disparaisse. Elle voulait qu'on s'aime mais je ne voulais pas. J'étais le dernier à faire le premier pas. Plus les années passaient plus lourde est la tâche. J'la trouvais pas bonne et j'voulais qu'elle le sache. Dans la méchanceté j'me sentais si bien. J'étais loin d'imaginer son quotidien. Des larmes séchées sur ses poèmes qu'elle m'écrivait en recherchant plaisir clitoridien. Faut que j'étais comme un allélohème. Scandé par un supporter parisien. Le jour de son suicide j'n'en revenais pas. La veille elle voulait que j'la prenne dans mes bras. Mais j'suis pas doué dès qu'on s'éloigne des draps. J'suis plus dans le suce-moi et concentre-toi. Dernier message, elle parle au répondeur. Allô Damso, je vais faire sonner mon air. Je décrochais pas, je voulais pas faire d'erreur. Qu'elle me casse les couilles, c'est ce dont j'avais peur. C'était la dernière fois que j'entendais ses pleurs. Elle était morte et pourtant je lui ai dit à tout à l'heure. Depuis je fume pour l'oublier. Je fume pour oublier que le Dieu. Depuis je fume pour l'oublier. Je fume pour oublier que le Dieu. Depuis je fume pour l'oublier. Je fume pour oublier que le Dieu. Depuis je fume pour l'oublier. Je fume pour oublier que le Dieu. 23 ans aujourd'hui, il y a 10 ans déjà. Que je prie pour que l'amnésie s'en prenne à moi. J'assume mes actes en fumant des noix. Peut-être que son avenir me pardonnera. Le jour de l'enterrement, je m'en battais les couilles. Bizarrement, c'est comme si je chantais pas les coups. En même temps, j'étais pas là pour voir sa dépouille. J'rappais pendant que le prof donnait cours. Jeune délinquant très mal dressé. Ma note à plein temps, poignet blessé. Négro déchant, chiasse dans Wessé. M'a dit le caissier avant d'encaisser. Énervé, je lui fous une patate dans le menton. J'ai pris ce qu'il avait dit pour argent comptant. Premier braquage sans trop faire exprès. Ce fils de putain n'avait pas d'espèce. J'm'enferme dans la drogue douce. Bras
de whisky dans le juice. J'oublie cette vie que j'ai ôté, son cul plat dont je me suis moqué. Ampoule de verre dépoli, ressort mon teint défraîchi. Je me souviens de cette vie que j'ai ôté, son 86B que j'ai ploté. Je me construis plus dans le regard des autres, je suis ni des leurs, ni des vôtres, ni des nôtres. Tout est reloin des beaux bâtiments, remorie de sombres châtiments. C'était la dernière fois que je sentais son pouls, elle était morte et pourtant je lui ai dit I love you. Depuis je fume pour l'oublier, je fume pour oublier que je l'ai tué. Depuis je fume pour l'oublier, je fume pour oublier que je l'ai tué. Depuis je fume pour l'oublier, je fume pour oublier que je l'ai tué. Depuis je fume pour l'oublier.
Le coin de l'édition maintenant avec une petite maison, petite entre guillemets bien sûr, qui publie de très grands textes. Une maison indépendante, comme l'a toujours été son fondateur, Maurice Nadeau, un homme aux multiples combats pour plus de justice, plus de liberté. Et aujourd'hui, Gilles Nadeau, directeur de la maison, a eu la gentillesse d'accepter d'être avec nous pour nous présenter ce lieu de résistance de la littérature que sont devenues les éditions Maurice Nadeau. Bonjour Gilles.
Bonjour, bonjour.
Alors, c'est vrai que les éditions Maurice Nadeau, il y a quand même le passé qui est là avec votre père, qui était un grand journaliste et qui a été un grand résistant.
Entre autres, oui, tout à fait. Il a été éditeur aussi. Il a été directeur de collection dans les grandes maisons d'édition. Avant de se mettre à son propre compte en 1976, c'est-à-dire 30 ans après avoir commencé son travail d'éditeur.
Et puis, c'était un homme quand même qui était intime d'Aragon, de Breton.
Ah, il les avait bien connus. Breton, d'abord, effectivement, il a écrit une histoire du surréalisme en 1945. Ce qui, il a eu des rapports un petit peu conflictuels aussi avec lui, mais qui n'en a pas eu avec André Breton. Quant à Aragon, alors là c'était un petit peu plus compliqué parce que Aragon, personne, c'est pas un secret, hein, il était stalinien et mon père était plutôt trotskiste, ce qui fait que c'est deux personnes qui ne s'entendaient pas vraiment du tout sur le fond politique. Et en particulier, il faut quand même se reporter au climat stalinien de l'après-guerre.
C'était chien et choc.
C'était l'histoire, c'était l'époque des dissidents. Hein. Mon père a publié d'ailleurs le premier dans sa revue Les Lettres Nouvelles, des textes de Solzhenitsyn, et puis par la suite de Les Récits de la Kolyma de Chalamov. Tout ça, ne faisait pas plaisir au grand mentor du Parti communiste français.
Mais il était très, très ami aussi avec Sartre, qui publiait sa revue juste à côté, je crois.
Oui, tout à fait. Ils étaient l'éditeur René Julliard abritait à la fois la revue des Lettres Nouvelles, donc de Maurice Nadeau, et la revue des Temps Modernes de Jean-Paul Sartre. Ils étaient effectivement sur le même palier. Alors ça a effectivement donné lieu à des connivences, mais ça n'empêchait pas la critique non plus. Mon père a souvent critiqué Sartre pour ses écrits sur Flaubert, par exemple. Mais il y avait quand même une amitié et un respect. Et d'ailleurs, ça s'est peut-être concrétisé aussi à l'époque du manifeste des 121 pour le droit à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie, que mon père a joué une part importante à la fois dans l'écriture et la diffusion de ce texte. Et puis surtout, c'était que la signature de Sartre avait apporté une sorte de caution qui a fait que le pouvoir en place à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, en 1962, on n'a pas voulu, De Gaulle avait dit, abandonnons les poursuites contre les intellectuels, on ne met pas Voltaire en prison. Oui. Et Voltaire, c'était Sartre, hein, c'est ça.
Donc il y a quand même un grand pan d'histoire, quand même, un pan d'histoire de la résistance, qui est de la résistance à toutes les oppressions qui est liée aux éditions Maurice Nadeau. Il y a aussi, donc les lettres nouvelles sont fondées, les éditions sont fondées en 77, Et là, il y a un passage aussi avec la Beat Generation qui a été les. Vous avez été un peu les premiers à les publier.
Tout à fait. Dans les lettres nouvelles, donc à l'époque, mon père a publié effectivement un grand nombre de textes. C'était des numéros spéciaux de sa revue. Hein. Ça, effectivement, c'est un petit peu avant tout le monde. C'est vrai.
Avec des gens comme Kerouac, comme Carmichael, comme Ginsberg.
Oui, tout à fait. Sa revue, on peut se demander qui n'a pas été publié dans la revue des Lettres Nouvelles entre 1953 et 1974. Tous les grands noms s'y trouvent. C'est assez ahurissant d'ailleurs de comparer les sommaires. J'ai publié une somme, un recueil exhaustif des textes écrits par Maurice Nadeau dans la revue des Lettres Nouvelles, et pour illustrer un petit peu en accompagnement, j'ai mis un peu les sommaires de cette revue, donc c'est dans le tome 2 de 60 ans de journalisme littéraire. C'est assez ahurissant de voir l'ensemble des collaborateurs qui ont participé à la revue.
Ouais, c'est un vrai ouzou de la littérature. Et donc, revenons à aujourd'hui, les éditions Maurice Nadeau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un auteur Maurice Nadeau aujourd'hui ?
Écoutez, c'est très difficile à définir parce que on trouve que des cas particuliers. On peut dire qu'on est éclectique. En revanche, il y a un point, c'est que on a volonté de sélectionner quand même des textes dont l'écriture apporte non seulement un éclairage thématique intéressant, mais aussi une qualité d'écriture. On reste quand même dans très littéraire. On pense littéraire avant commercialisation de livres, vous voyez. Donc, ce qui fait qu'en gros, on publie des livres qui n'ont pas une vocation à être des best-sellers. C'est pas ça que nous choisissons. C'est plutôt des livres qui ont plutôt, hélas, restent dans les rayons des libraires un petit peu. On les voit pas trop. Ils sont pas empilés sur les tables. Mais de temps en temps, il y a des exceptions. Et quelques libraires nous accompagnent quand même dans notre travail. Voilà.
Comme c'est dommage, parce que vous publiez quand même des textes assez puissants.
Oui, hein, ce qu'on peut regretter, c'est qu'au bout de 3 mois, un livre n'est plus disponible en librairie. Hein. Un livre qui n'est pas vendu dans les 3 ou 4 mois, il retourne chez le distributeur.
Oui, alors, c'est la durée de vie moyenne. Quoi.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? Eh bien, on est obligé de faire justement des petites émissions sur les radios, sur les blogs littéraires. C'est devenu essentiel finalement pour accompagner nos bouquins.
Et là, vous publiez principalement de la littérature française ou est-ce que vous publiez des traductions également ?
Non, on publie des traductions aussi. C'est un peu plus rare parce que ça demande une mise de fonds et qu'on n'a pas une énorme puissance commerciale pour diffuser nos livres. Mais par exemple, nous avons publié un ouvrage extraordinaire qui s'appelle La Grande Guerre en demi-teinte de Edward Blunden, qui était un poète engagé sur le front de la Somme entre 1914 et 1917, et qui nous offre un récit, un compte-rendu du vécu des combattants, dont il a échappé par miracle à la mort. Hein. Et c'est un auteur qui a été sélectionné plusieurs fois par les Nobel pour lui filer un prix Nobel. Mais bon, il l'a pas eu. En revanche, ce livre n'avait jamais été traduit en France jusqu'à ce que nous l'ayons fait il y a 2-3 ans. On est très fiers d'avoir fait ce travail. On publie aussi des textes d'écrivains d'Europe de l'Est, par exemple des écrivains roumains, crassiens, des écrivains slovaques. Vous voyez, on est éclectique, on essaie de dès qu'on trouve un bon texte, on essaie de foncer, on essaie de jouer notre rôle.
Et pour l'année qui vient de finir, là, il y avait deux textes absolument extraordinaires qui sont parus chez vous. C'est « Sous le ciel vide » de Raphaël Nizan et « Le jardin du Lagerkommandant » de Anton Stolz.
Ah bah écoutez, oui, ça c'est un peu, c'est un peu notre fierté. Raphaël Nizan, c'est un phénomène qui nous a été amené par Delphine Chaume, qui était productrice de l'émission Un livre un jour sur France 3, oui. Et qui nous a dit vous êtes les seuls à pouvoir publier ce bouquin parce que l'auteur veut rester anonyme. Alors je dis oui, pourquoi pas, lisons le texte, on se décidera. On s'est décidé très très vite. Oui. Ce bouquin est extraordinaire. Hein. Il est une écriture
absolument fantastique,
magnifique, pour raconter des situations épouvantables. Alors, quand on a cet objet littéraire dans la main, on jubile. Est-ce qu'on voudrait se faire partager notre jubilation, évidemment?
Écoutez, il suffit de le lire. Hein. C'est pas compliqué. Hein.
C'est pas compliqué. Le jardin de la guerre commandante, ça c'est aussi une approche tout à fait originale.
Ah, ça, c'est un roman qui est complètement fou, ça, parce que...
Un écrivain canadien qui en fait, a réussi à faire un récit dont le thème tourne autour du déni de ce qui se passait dans les camps de la mort, par exemple à Auschwitz. C'est le journal d'une femme, d'un officier nazi chargé de la comptabilité du camp d'Auschwitz.
Il compte les morts.
Et qui compte les morts, évidemment, et ils rentrent chaque soir à la villa qu'ils occupent à 3 km du camp, et là, il est exténué par son travail, parce que là, il y a du boulot, c'est vrai. Et sa femme est dans un autre monde, elle pense qu'à réaliser un jardin exotique, en pleine Pologne, vous voyez, et surtout d'avoir un salon littéraire, musical, avec les femmes des officiers nazis, elle ne veut pas savoir ce qui se passe. Elle y arrive très bien. Et même en 1945, lorsque le pot rose est quand même découvert avec la libération des camps, pour elle, tout ce qu'on voit au cinéma, aux actualités, c'est une pure propagande américaine. Tout ça, c'est très exagéré. Oui, bien sûr, il y a eu des morts, mais enfin, ils étaient très dépressifs, tous ces
déportés. On est dans la vérité alternative à la Trump.
Exactement.
C'est extraordinaire.
Et ça fonctionne très bien parce que le récit montre comment ça marche. Il suffit c'est quelque chose qui a trait à la foi. Voilà, la réalité n'a pas d'importance.
L'importance de la croyance.
Oui, l'important c'est son se croire. C'est ce qu'on croit.
Merci beaucoup Gilles Nadeau, on en sait un peu plus sur les éditions Maurice Nadeau. Moi je vous recommande ces deux livres-là quand même, « Sous le ciel vide » de Raphaël Nizan et « Le jardin du Lagerkommandant » d'Anton Stolz. Ce sont deux petits bijoux, mais alors vraiment des merveilles, vous allez vous régaler. Et j'ai piqué un titre dans « Sous le ciel vide », c'est « Need You Tonight » de In Excess. Merci beaucoup Gilles Nadeau.
Merci, au revoir.
Au revoir. I need you.
There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You are my kind. Oh. I need you tonight. 'Cause I'm not sleeping. There's something about you. Makes me sweat. So how do you feel? I'm lonely. What do you think? Can't think at all. What you gonna do? Gonna live my life. How do you feel? I'm lonely. What do you think? Can't think at all. What you gonna do? Gonna live.
C'est dans la boîte. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le mois prochain pour de nouvelles aventures littéraires. Bye bye.
Des polars et des notes.